Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur le stand EDF au Salon des maires en direct. On va vous parler d'un sujet brûlant, le sujet de l'adaptation au changement climatique. Je m'appelle Karine de Boissezon, je suis en charge de la direction Impact. La direction Impact chez EDF, c'est la direction qui s'occupe de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée par Maximilien Rouer.
Bonjour.
Bonjour Maximilien. Donc vous travaillez chez Mazars, mais vous êtes aussi et surtout l'auteur de ce magnifique livre. C'est bientôt Noël, n'hésitez pas pour les cadeaux. Ça s'appelle La France bleu, blanc, vert et ça parle de solutions. Parce qu'ici on est là pour parler des solutions. Les problèmes, on les connaît, on va en parler. Mais ça, c'est un livre qui va vous parler des solutions au sujet de l'adaptation au changement climatique. Alors Maximilien, si je peux commencer par cette question, c'est quoi le constat aujourd'hui ? On en est où sur ce sujet de l'adaptation ?
Alors, merci Karine. Sur le sujet de l'adaptation, on a maintenant une trentaine d'années de recul au niveau scientifique. Et ce qu'on sait, ce n'est pas des super bonnes nouvelles. C'est-à-dire que les scientifiques avaient raison dans leur modélisation et le changement climatique va vite, très vite. Et on va devoir s'adapter à très court terme à des températures sans précédent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des plus 50 degrés à Paris, par exemple, pendant plusieurs jours, en été ou même à l'automne. Ça veut dire des grandes sécheresses, des grandes inondations. Des grandes, ça veut dire longues, profondes, qui vont toucher des territoires ou des régions entières. Ça veut donc dire qu'il faut protéger les populations, protéger les activités économiques, protéger les usines. C'est ça l'adaptation aujourd'hui. C'est maintenant et c'est tout de suite.
Est-ce que s'adapter, ça veut dire renoncer à baisser les émissions de CO2 ?
Alors évidemment, pendant un temps, on pouvait opposer atténuation, réduction des émissions et adaptation. En fait, les experts du bâtiment vont vous dire, et les experts du climat vont vous dire, l'atténuation d'aujourd'hui, c'est l'adaptation de demain. Ça veut dire que réduire les émissions d'aujourd'hui, ça permet de moins investir demain pour s'adapter à quelque chose d'un peu moins violent. Donc les deux sont totalement liés, corrélés, dépendants.
Alors, il y a beaucoup d'acronymes autour du climat. Est-ce que tu peux nous aider à décrypter TRAC, PNAC, 4 degrés France, 3 degrés mondial? Ça veut dire quoi, en fait, tout ça?
Alors, ce qu'il faut retenir, et ça n'aura échappé à personne, aujourd'hui, il fait frais, il pleut, et on va vous parler de changement, de réchauffement climatique. C'est pas très sympa. Ou ça paraît paradoxal. En fait, ce qu'on perçoit sur notre peau ou sur notre tête aujourd'hui n'est pas représentatif du tout du climat mondial. La température mondiale mesurée dans de multiples points du globe, cette année, mauvaise nouvelle, c'est la plus chaude jamais enregistrée et c'est la plus chaude que l'humanité ait connue et c'est même la plus chaude que les mammifères aient pu connaître. Donc il faut remonter pour avoir cette température à des millions et des dizaines de millions d'années en arrière, c'est-à-dire avant l'homme, avant l'humanité, avant toute histoire. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne la perçoit pas et donc on est difficilement en mesure de s'y préparer, surtout quand on est à Paris aujourd'hui.
On est un peu les grenouilles dans l'eau qui chauffe, quoi. C'est ça l'image ?
On est un peu les grenouilles. Alors la chance en France, c'est qu'on a des gens qui réfléchissent et qui nous produisent des PNAC TRAC. Donc je vais répondre à votre question. Le PNAC, c'est le plan national d'adaptation au changement climatique. Ça veut dire qu'on a des politiques qui mandatent des experts pour dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour s'adapter au changement climatique. Nous en sommes au troisième PNAC. Ensuite, ce PNAC, il est par certains jugé peut-être un peu théorique ou pas assez concret. Et du coup, le gouvernement a lancé, avec l'aide d'experts, le TRAC. C'est cette fois-ci la trace, donc le chemin qu'on doit mettre en place pour effectivement s'adapter au changement climatique. C'est beaucoup plus concret, j'allais dire pied après pied, marche après marche. C'est un peu l'esprit qu'il faut retenir. Je dirais le côté positif quand on est français, c'est que pour le coup, on dispose de beaucoup de connaissances scientifiques. Ça, c'est mondial. Et en France, d'experts sur l'adaptation et sur le climat qui sont quand même beaucoup plus rares à l'échelle mondiale. C'est une chance.
Alors ici, on est au Salon des maires. On parle des perspectives pour les villes et les territoires. C'est aussi de ça dont tu parles dans ce livre. Est-ce que tu peux nous donner des solutions concrètes à la fois pour le milieu rural et le milieu urbain? Comment une ville, un territoire doit s'adapter?
Voilà. Alors ceux qui ont vu Valence vont tout de suite pouvoir dire mais qu'est-ce que c'est que ce type qui se permet de parler d'adaptation? Personne ne peut s'adapter à Valence. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous avez raison et la mauvaise nouvelle, c'est que vous avez tort. Vous avez raison parce qu'évidemment, quand les infrastructures sont tellement mal foutues, amont et aval, qu'on arrive à Valence, on peut plus rien faire. Et vous avez tort parce qu'en fait, ce n'est pas fatal. On peut organiser l'amont de la ville, c'est-à-dire le territoire agricole et les infrastructures, et on peut organiser la ville de telle sorte que cela n'arrive pas ou cela n'arrive plus. Alors comment on fait ? L'idée, le maître mot de l'adaptation, c'est protection. On va protéger les populations et les activités agricoles, industrielles, urbaines, économiques. La première étape, ça va être de se dire, on va organiser la topographie, donc tout ce qui va permettre de casser les ruissellements et de casser les ruissellements d'eau et de casser le côté grippin du soleil, on va pouvoir l'organiser. Sur le côté grippin, on va pouvoir appeler ça les solutions parasols, c'est des ombrières. Retenez les ombrières, on voit à peu près tout ce que c'est. Et dans les ombrières, on va les décliner, les ombrières photovoltaïques, les ombrières végétales, les ombrières tout simplement avec des textiles ou de l'aluminium, peu importe. Bloquer le côté grippin pour éviter que ce qui est en dessous ne chauffe ou ne grille. Sur la partie éviter les ruissellements beaucoup trop fatals, comme on l'a vu à Valence, il s'agit de rééquiper en infrastructure l'amont agricole, éviter que l'eau, la goutte d'eau qui tombe sur un bassin versant n'ait que une descente à faire comme un skieur sur une piste de kilomètres lancés, organiser plein de bosses, et vous imaginez un kilomètre lancé avec des bosses, ça va, on va pas très loin. Donc imaginez le fait qu'on doive restructurer l'amont agricole, l'amont des villes et l'amont industriel de telle sorte que effectivement l'eau soit le plus longtemps possible retenue en amont par une topographie et un sol éponge, de telle sorte que plus jamais les épisodes comme les épisodes Cévenol qu'on connaît en France ou l'épisode de Valence ne se reproduisent. Et là, effectivement, le maire, l'élu, l'acteur de la ville ou de la métropole a un rôle majeur à jouer dans la ville, tout simplement dans les protections, et en amont dans les métropoles, dans la capacité qu'il va avoir à créer des retenues collinaires, à créer des infrastructures écologiques ou pas, pour ralentir la vitesse de l'eau, pour ralentir son côté destructif.
Alors, ça coûte de l'argent.
Voilà.
Et on sait, c'est un peu un sujet en ce moment, la loi de finances, on voit bien qu'on cherche des économies. Combien ça coûte, Maximilien, de faire cette adaptation ?
Alors, dans le livre France Bleu Blanc Vert, vous aurez le détail de chacune des solutions. Et évidemment, une solution technique n'a de valeur que si elle est dimensionnée. Donc vous y trouverez le prix par ouvrage et le prix pour un passage à l'échelle au niveau français. Et c'est très important, ce livre a été construit à mettre dans toutes les mains d'élus en se disant, mais finalement, je veux protéger mon territoire face au changement climatique, de quoi je dispose et combien ça coûterait. Et donc, si on délivre, on spoil un peu les résultats de cette étude qui a duré un an et avec plus d'une centaine de personnes interviewées, expertes un peu partout dans le monde. Pour la France, le chiffre, et je vais le lâcher, c'est 300 milliards d'euros entre 2025 et 2050. Ce qui correspond, année après année, à un peu d'argent, c'est année après année entre le budget du ministère de la Justice et le budget du ministère de l'Agriculture. Donc on est sur des ordres de grandeur entre 6 et 12 milliards d'euros selon les fourchettes, selon les échelles. Mais ce qu'il faut retenir, et c'est assez essentiel, c'est que le gros de ces investissements sont des investissements privés. Par exemple, une ombrière photovoltaïque, que ça soit agrivoltaïque à la campagne, sur les champs ou dans les villes, à la campagne, ce sont des infrastructures qui peuvent avoir un propriétaire, mais ce n'est pas le public qui paye. Et dans les villes, ce sont les copropriétés, les propriétaires de bâtiments qui vont payer. D'une manière générale, il y a un modèle économique associé à ça avec une rentabilité. Donc, on peut le sortir. Et sur les 300 milliards, en gros, c'est un gros deux tiers qui sort sur l'agrivoltaïsme et le photovoltaïque en général. Et vous ne m'avez pas posé la question, mais en totale alliance ou cohérence avec les scénarios de RTE, bien sûr, les scénarios de RTE à l'horizon 2050, un très très beau travail de modélisation de l'avenir énergétique français fait par votre sœur ou cousine, je ne sais plus comment on dit avec RTE. Donc les solutions existent, le dimensionnement existe et le résiduel de ces 300 milliards, donc entre 50 et 70 milliards qui resteraient à financer, au choix, il pourrait être éco-conditionné réglementairement à la mise en place du photovoltaïque et où, effectivement, il serait à financer par le public sur des modes que je présente dans le livre. Et là, pour le coup, je vous invite à le lire.
Alors, chez EDF, on aime bien dire que être résilient seul, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est effectivement le territoire. Comment on fait travailler ensemble des acteurs qui sont très divers, au moment même où on sait qu'il y a une montée du climato-scepticisme, des, voilà, la fin du monde, fin du mois. Comment on fait que ce sujet est une priorité ?
Alors, merci de poser la question. On a besoin de collectifs. Je vais partir du haut. Le climat, c'est un bien commun. Excusez-moi, j'enfonce des portes ouvertes, mais on a un bien commun qui nous permet collectivement de fonctionner, qui nous permet même de vivre. Ce bien commun, on va y répondre de manière collective. Et le collectif, ça veut dire notamment être capable de faire fonctionner ensemble des énergéticiens avec le monde agricole, avec le monde de l'urbanisme, le monde des villes, avec le monde des autres industriels, que ça soit dans le tourisme, dans le food, dans le textile, peu importe. En fait, si on se dit les choses vraiment, nous sommes tous bénéficiaires d'une eau abondante et quasiment gratuite aujourd'hui. Nous en sommes bénéficiaires et surtout légataires et héritiers. Est-ce que nous allons être capables, collectivement, un, de prendre conscience que le changement climatique remet en question cette constante jusque-là et la transforme en variable ? Oui, l'étiage de l'eau dans la Garonne, dans la Seine, dans le Rhône, devient une variable. Parlez-en aux experts, c'est dramatique. Et ça ne va faire que s'accentuer. Donc si c'est une variable, comment nous, territoires élus, allons-nous fonctionner alors que tout ce sur quoi on a construit les villes et les usines ne marchera plus ? On s'attendait à 100, on va avoir 2. Comment on fait ? Alors on peut temporairement apporter des bouteilles d'eau, mais je n'imagine pas qu'on refroidira une turbine nucléaire à la bouteille d'eau, d'accord ? Et je n'imagine pas qu'on sera capable de nourrir une ville comme Bordeaux ou Toulouse avec des bouteilles d'eau. Et encore moins une usine, que ce soit une usine Danone ou Arkema. Donc on est dans un schéma où collectivement, on doit regarder le problème. L'adaptation du changement climatique, c'est un bien commun, c'est un problème commun. Et y répondre de manière collective, c'est-à-dire briser les frontières. Chacun des mondes est quand même un peu endogamique. L'énergie avec l'énergie, l'agriculture avec l'agriculture, le monde du public avec le monde du public. En fait, ça ne marchera plus. Ça marchait hier, ça ne marchera plus demain. Il va falloir créer des espèces d'alliances, de coalitions pour un bien commun prioritaire et primaire qui est l'eau, s'organiser pour que finalement cette eau continue de tomber, ça c'est certain. On sait qu'elle va tomber de manière beaucoup plus violente, CF Valence ou les épisodes Cévenol, en même quantité mais beaucoup plus violente. Donc comment on va financer l'organisation amont de telle sorte que cette eau qui va tomber peut-être en 2 pluies d'orage et non plus en 8 ou 9 mois, comment cette eau qui va tomber en 2 pluies d'orage restera disponible pour les villes, les administrés, les électeurs, les travailleurs dans les usines et d'une manière générale pour nous tous. C'est le sujet, je pense, des toutes prochaines années. Comment on va faire vivre cette adaptation au changement climatique à travers des infrastructures qu'on devra financer en même temps que le reste, mais tous ensemble, en collectif.
J'en profite pour rappeler peut-être des points essentiels par rapport à EDF. 90% de notre production électrique dépend de l'eau. Donc évidemment, c'est un sujet crucial pour nous. Ça justifie qu'on se soit emparé des enjeux d'adaptation depuis très longtemps. On a la chance d'avoir notamment un service climatique dédié au sein de notre recherche et développement. 2000 chercheurs au total et à l'intérieur de ces équipes, des gens spécialistes des sujets climatiques et sur lequel on a lancé énormément d'initiatives avec des académiques, avec des collectifs, comme vous l'avez dit, parce qu'on ne peut pas résoudre ce sujet tout seul. Il faut que le territoire dans son ensemble soit adapté. Si on pense aux concessions hydroélectriques aussi du groupe EDF, 70% de nos concessions sont autour du multi-usage de l'eau. Donc l'étiage, le tourisme, l'agriculture. Et donc c'est un sujet de choix, de priorisation. Un élément qui m'a interpellé, Maximilien, à Taïwan, on fait des semi-conducteurs. On sait à quel point c'est essentiel. Au moment des sécheresses, des pays peuvent choisir de favoriser le semi-conducteur et pas l'agriculture. Comment, d'un point de vue démocratique, on va être capable de choisir nos communs ? Vous parlez des communs. Comment on va être capable de savoir qu'est-ce qui est prioritaire ? Parce que le semi-conducteur, ça fait vivre un pays. Et donc, finalement, l'agriculture, on peut peut-être importer ailleurs. C'est quoi la soutenabilité des choix qu'on devra faire demain ?
Donc aujourd'hui, je peux juste orienter, répondre à cette question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais en disant qu'il y a des travaux qui ont lieu. Je connais 2-3 personnes qui s'intéressent au sujet. C'est quand même des sujets émergents. Avec ce qu'on appelle les nexus, C'est-à-dire, si vraiment la situation s'avère aussi difficile que ce qu'on pense, on a trois nexus, l'eau, l'alimentation et l'énergie. Et du coup, quelles sont les populations qu'on doit préserver pour que ces trois nexus fonctionnent? Et comment on oriente les choix pour que ces trois nexus fonctionnent? Donc, vous imaginez, on est en 2024, on a collectivement un niveau de maturité qui permet de lancer des projets de recherche là-dessus. Ces acteurs apportent des réponses très concrètes. Hein, ça veut dire, par exemple, qu'une des dernières populations à mourir en France, ça devrait être les agents EDF. Voilà, qu'on soit clair. Parce que si, je vais jusqu'au bout, c'est pas une blague. Parce que s'il y a des problèmes, si on veut éviter les épidémies de choléra et machin et trucs, il faut toujours que les pompes fonctionnent. Excusez-moi, les pompes à caca. Voilà. Donc, si les pompes ne fonctionnent plus, c'est là où ça part complètement en vrille. Et donc, la dernière population la plus importante en termes de survie, c'est les agents électriques. Voilà. Donc, oui, il y a des travaux comme ça. De l'énergie, de l'électricité. Ensuite, on bascule à l'agriculture. Vous savez que c'est un sujet, c'est une population qui a énormément souffert. Hein, c'est le plus grand plan social depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est le monde agricole. Ce sont des millions d'emplois qui ont disparu. Hein, on est tombé à quasiment 2% de la population active en agriculteur. Ce sont des gens qui continuent de travailler quasiment 7 jours sur 7. Voilà. Avec une rémunération très très modeste, comme tout le monde le sait. Donc là, sur le nexus alimentaire, on a un énorme chemin à parcourir sur la reconnaissance du monde agricole, sur l'importance de la valeur à apporter à ce monde agricole amont, parce que autant on a beaucoup parlé d'eau en termes d'adaptation, autant évidemment le premier usage de l'eau, c'est la production agricole et alimentaire. Et là-dessus, on a beaucoup de chemin à faire collectivement pour remercier cette population d'encore travailler la terre et de produire les aliments si essentiels à la vie demain, comme on le voit là.
Alors, on a beaucoup parlé infrastructure. L'adaptation, c'est aussi un enjeu d'adapter nos comportements, notre travail, nos horaires de travail. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler aussi de ça, ce que ça veut dire? Et si on pense à Valence aussi, un des enjeux, ça a été la gestion de crise finalement. Quels sont les réflexes à avoir quand la crise arrive, l'eau tombe un an en 24 heures? Eh ben, il faut pas aller chercher sa voiture en sous-sol. On a bien compris ça aujourd'hui. Mais comment on forme les populations pour gérer la crise?
Alors déjà, il faut savoir que c'est globalement un sujet au niveau de l'État. Qu'on a en France beaucoup de recul sur ce sujet. On peut citer aujourd'hui retraité, mais Patrick Lagadec, hein, qui a fait beaucoup de retours d'expérience sur les grandes crises, que ce soit Fukushima, Nouvelle-Orléans, etc., qui a théorisé ce qu'il appelle la force de réaction rapide pour être capable, effectivement, en situation critique, d'avoir tout de suite une cellule opérationnelle pour éviter, l'inflation morbide. On va dire aussi sur ce sujet que
un petit coup de mou. Donc, adapter les horaires de travail, peut-être.
Non, voilà, c'est ça. Et effectivement, on a un vrai sujet de collectif. Prenons un cas très concret qui est adapter la ville au changement climatique. On a en fait un sujet interministériel qui est l'excellent travail des ABF, des architectes des bâtiments de France, qui ont pour mission donné par le ministère de la Culture de protéger le patrimoine, et on en est tous très heureux. Et à côté, on a le ministère de l'Environnement qui a pour mission de protéger la population sur les risques environnementaux. Le ministère de l'Environnement recommanderait de faire un certain nombre d'adaptations pour la ville qui viendrait directement en frontal de l'évolution patrimoniale de la ville. Et là, on voit bien que les deux ministères n'ont pas la légitimité, qu'il faudrait qu'on remonte ça en interministériel. Ce n'est qu'un cas parmi 10, mais un cas terriblement emblématique, parce qu'aujourd'hui, on a les technologies, on a les solutions pour adapter la ville, mais elles ne sont pas du 19e siècle, elles sont du 20e siècle. Et on a donc un vrai sujet de facilitation pour les élus, de mise en place de solutions, en croisant les deux ministères de tutelle qui pilotent finalement ce qui est faisable au niveau des aménagements de la ville. Et donc là, comme ailleurs, le sujet, c'est comment faire évoluer la réglementation pour que celle-ci soit elle-même adaptée à l'adaptation au changement climatique, si vous me permettez ce petit clin d'œil d'humour. Voilà, il faut le dire vite. Mais qu'on a un vrai problème d'adapter la réglementation, l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire comment des réglementations qui ont été conçues dans un autre monde climatique vont être vont passer le cap de l'adaptation. Et là, on a une révision générale des réglementations pour faciliter le travail des élus et leur permettent de protéger leur territoire. Parce qu'aujourd'hui, souvent, ce sont des injonctions paradoxales. Il y a la responsabilité de protection donnée à l'élu et il y a un blocage, quelque part, une injonction paradoxale réglementaire qui lui dit « Ben non, on est désolé, tu as plein de bonnes idées, mais tu vas pas pouvoir les mettre en place. » Donc là, il y a vraiment un réalignement en fonction de cette nouvelle donne qui est l'adaptation au changement climatique où on doit redonner du pouvoir aux élus de telle sorte qu'ils puissent avoir des collectivités qui soient capables de faire face au monde qui vient.
Alors, vous parliez des 50 degrés. 50 degrés, on entend beaucoup de choses autour des 50 degrés. Ça existe déjà dans des pays, j'imagine, au Pakistan, au Bangladesh, etc. Concrètement, ça veut dire quoi dans notre capacité à travailler ensemble? Comment notre cerveau, finalement, va s'adapter? Est-ce qu'il peut s'adapter? Est-ce qu'on a des solutions aussi, en tant qu'être humain, pour continuer à être productif dans un monde à 50 degrés?
Alors... Premier élément, oui, il y a des gens qui vivent depuis toujours sur Mars, voilà. Pour tous ceux qui sont allés faire du tourisme à Dubaï ou aux Émirats, en juillet ou même en juin ou même en mai, vous voyez de quoi je veux parler, hein. C'est si vous n'êtes pas sous la climatisation, c'est pas très agréable, voilà. Alors, si c'est en short et en claquette pour aller faire une balade en dromadaire pendant une heure, ça gère. Si c'est pour être productif devant un ordinateur ou productif en réunion, c'est plus du tout la même chose. Si c'est pour être productif sur un chantier où vous devez couler du béton ou installer du parquet, c'est pas du tout la même histoire. Vous m'avez compris. Donc on a bien un sujet qui est 50 degrés un petit peu, 50 degrés parfois et 50 degrés pas tout le temps. Ça n'aura échappé à personne que l'essentiel du Moyen-Orient qui travaille est sous climatisation. Ensuite, effectivement, ça veut dire faire des aménagements de temps de travail. En Espagne, depuis toujours, on connaît la sieste, l'après-midi entre 14h et 16h qui travaille. Voilà, c'est le temps du repos. Et puis, on va dîner très tard, on va dîner à 22h, etc. Donc, c'est des organisations et des fonctionnements qui sont très différents de ce qu'on connaît en climat tempéré. Et donc, justement, chez nous, la difficulté, c'est que nous sommes un pays béni des dieux, hein, heureux comme Dieu en France, comme disait l'autre. Nous sommes un pays béni des dieux avec un climat qu'on appelle tempéré. On ne s'en rend plus compte tellement on est né dedans et on a grandi dedans. Mais quand vous sortez du tempéré pour aller sur un climat beaucoup plus extrême, beaucoup plus violent, eh bien, ça ne peut plus fonctionner de la même manière. Voilà, tout simplement. Ça ne veut pas dire que c'est pas gérable, ça ne veut pas dire qu'on va tous vivre sous terre. Quoique, quand vous êtes aux Émirats, tout le monde vit sous terre, hein, dans des malls climatisés, etc. Mais enfin, on n'est pas obligé de vivre sous terre quand il fait chaud. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on ne fonctionne pas pareil que dans un climat tempéré tel qu'on le connaît depuis toujours en France. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que passer à un climat qui sortirait de la tempérance? Qu'est-ce que ça veut dire sur nos habitudes? Qu'est-ce que ça veut dire sur nos rythmes de travail? Qu'est-ce que ça veut dire sur nos infrastructures? Qu'est-ce que ça veut dire aussi sur la réglementation qui régule un peu tout ça? Bah, là encore, je reboucle, on est obligé de revoir tout ça parce qu'effectivement, aujourd'hui, les données scientifiques, les modèles climatiques et les données scientifiques sont disponibles aux coordonnées GPS près. On peut modéliser tout ça. On peut dire très précisément qu'est-ce qui va se passer en 2040 et en 2050, avec un écart type évidemment. Mais on sait qu'on va au devant d'un réchauffement climatique extrêmement désagréable parce que sans précédent pour nous, habitués à la tempérance. Et ça veut donc dire qu'on va devoir se préparer à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est un exemple basique pour vous les élus. La climatisation que nous connaissons, nos climatiseurs en France fonctionnent au maximum pour 42 ou 43 degrés. Voilà. Et ben oui, et donc s'il fait 50 degrés, ça ne marche plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de climatiseurs qui fonctionnent à 50 degrés. Ils sont juste beaucoup, beaucoup plus chers. Et effectivement, on ne les a pas installés en France parce que jusque-là, on n'en avait pas besoin. Mais qu'est-ce qu'on va faire demain quand on aura des hôpitaux, il fera 50 degrés dehors, on aura des gens qui auront besoin de soins et dans les hôpitaux, ben, on n'aura plus de climatisation parce que la climatisation aura fondu. Voilà. Donc c'est de tout ça dont on doit parler. C'est hyper concret, c'est très tangible et on a un peu de temps, un tout petit peu de temps, un tout tout petit peu de temps pour s'y préparer. C'est ça l'adaptation au changement climatique.
Merci beaucoup.
Merci. Il y avait une question que je voulais vous poser. Qu'est-ce que le maire de ma commune moyenne, il peut faire pour combattre les îlots de chaleur concrètement? Comment ça se traite? Est-ce que c'est juste en plantant des arbres? Et peut-être une autre question. Qu'est-ce qui vous rend un peu sûr qu'on va gagner cette guerre de l'adaptation au changement climatique ?
Alors, je commence sur les ICU, sur les îlots de chaleur urbains. Donc, une petite définition. Un îlot de chaleur urbain, c'est des conditions dans une ville de circulation d'air et d'albédo, donc de réchauffement local, qui vont faire que vous pouvez avoir plus 10 degrés dans cet îlot de chaleur urbain par rapport à quelques centaines de mètres plus loin. Voilà. Donc, des réchauffements très substantiels que vous pouvez regarder sur Internet. Vous mettez îlot de chaleur urbain, images, et vous voyez n'importe quelle ville aujourd'hui qui est cartographiée, du rouge foncé au bleu. Et effectivement, en bleu, ça va être les zones végétalisées, donc les arbres. Bon, les arbres, ça peut pas être planté partout, hein, parce qu'il y a des parkings, il y a des canalisations. Donc, pour répondre à la question pertinente de l'élu de taille moyenne, je dirais le truc le plus économique tout de suite, s'il a l'accord des ABF, des architectes des bâtiments de France, c'est de réduire l'albédo, enfin d'augmenter l'albédo, c'est-à-dire au maximum de blanchir la ville. Parce que un des résultats de la ville routière, autoroutière, de la ville en voiture, c'est que la ville est devenue gris foncé. Voilà, la ville gris foncé, bah, c'est une ville qui absorbe beaucoup les UV, qui les transforme en infrarouge, qui fait très chaud. Et donc, plus la ville est foncée, plus elle est chaude en été. Et à contrario, si on veut réduire ces îlots de chaleur urbains, cette température, il faut passer de gris foncé à blanc, si possible, ou à gris clair. Voilà. Donc là, il y a plein de solutions référencées par le GIEC. Le GIEC est le groupe intergouvernemental d'études sur le climat. Vous avez notamment ce qu'on appelle en bon anglais le cool roofing. Voilà, donc des couches de peinture blanche qui vous permettent d'augmenter l'albédo et donc de renvoyer 100% du rayonnement lumineux dans l'atmosphère. En France, c'est surtout dans le tertiaire, donc c'est surtout des supermarchés, des hypermarchés, des immeubles de bureaux qui ont mis ça en place. Mais c'est accessible aujourd'hui à tous, voilà. Et puis, évidemment, secondairement, des ombrières photovoltaïques et des ombrières végétales.
Qu'est-ce qui vous rend optimiste qu'on va réussir cette guerre contre le changement climatique ?
Personnellement, ce qui me rend fondamentalement optimiste, c'est que l'homme est un animal sociable, voilà, qu'on a réussi à apprendre beaucoup, qu'on est à une époque où on n'a jamais eu autant connaissance des choses. Donc voilà, moi j'ai un âge qui fait que j'ai vu émerger Internet, etc., etc. Donc moi j'ai grandi à une époque où quand on posait une question, bah on avait le dictionnaire, c'était tout. Voilà. Aujourd'hui, on pose une question n'importe laquelle, on a accès à toutes les réponses en 10 langues en instantané. Donc un, on a accès à la connaissance. Deux, on a accès à l'innovation. On n'a jamais eu de l'histoire de l'humanité autant d'innovation technologique qu'aujourd'hui. Voilà, hein, excusez-moi, j'enfonce des portes ouvertes, mais un, la connaissance, deux, l'innovation, et trois, on l'oublie trop souvent, mais le PIB, l'argent, on n'a jamais été aussi riche, alors on peut critiquer, etc., etc., mais il n'y a jamais eu autant d'argent sur Terre disponible, et ce qui manque, c'est de l'allouer à bon escient, de l'allouer en fonction du nouveau contexte environnemental et climatique.
Bonjour à vous deux. Alors, on a deux questions en ligne. La première, l'adaptation est-elle forcément contraignante ? Et la seconde, EDF aide-t-il les collectivités locales pour trouver les aides et financements ?
Alors, est-ce que c'est forcément contraignant ? En fait, je pense que c'est toujours la question entre le coût de l'action et le coût de l'inaction. Ce qu'on vit aujourd'hui avec les événements climatiques extrêmes, ça nous coûte énormément d'argent, ça coûte des vies, hein, qu'on fait Valence. Et donc, d'une certaine manière, anticiper les besoins dont on va être obligé de s'adapter, maintenant, ça peut paraître contraignant, mais c'est pour pérenniser notre patrimoine et nos vies. Donc, je pense que c'est vraiment un enjeu majeur qu'on doit avoir à chaque fois qu'on parle de l'écologie punitive, de se dire, mais en fait, la restriction de liberté, c'est de ne pas faire ce qu'on doit faire pour se projeter dans l'avenir. Donc, pour moi, non, ça n'est pas contraignant. Au contraire, c'est enjaillant, c'est se projeter, se donner un avenir. Après, EDF, donc je vous le disais hein, au tout début, on a la chance d'avoir un service climatique, on a la chance de pouvoir aider du coup ces collectivités, ces territoires, par le biais de l'innovation dont vous parliez, Maximilien, avec par exemple des jumeaux numériques de bassins pour aider les collectivités autour de nos actifs à comprendre comment le territoire va évoluer. Donc ça, c'est vraiment des discussions qu'on a avec l'ensemble de territoires. On organise des journées climat, des journées adaptation autour de nos actifs, avec les élus, pour leur présenter nos scénarios et évidemment essayer de travailler ensemble sur l'adaptation. Après, on est aussi au niveau plus macro avec le gouvernement, puisque EDF fait partie des entreprises considérées comme critiques pour l'adaptation. Donc on doit nous-mêmes publier un plan de vulnérabilité et un plan d'adaptation du système électrique. Comme vous l'avez dit, Maximilien, on doit être résilient pour que le reste de l'économie soit résiliente. Et donc, c'est essentiel qu'EDF s'adapte pour permettre au territoire de s'adapter. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre attention et à bientôt.
Merci.